Chapitre 8. Rapport du MIS, établi le 12 mai 1946, intitulé Rice Bowl Hill Incident 1944 Report. Numéro de dossier PTYX-722-8967-45-422-16-WWN. Enregistrement sur magnétophone. L'interrogatoire de Shinoguri Tsukayama, 52 ans, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université impériale de Tokyo, s'est déroulé à Tokyo au sein du quartier général du haut commandement interallié et a duré 3 heures. Numéro d'accès au dossier accompagnant cet enregistrement PTYX-722-SQ-2667 à 291. Note, les dossiers 271 à 278 sont manquants. Impression de Robert O'Connell, chargé de l'interrogatoire. Le professeur Tsukayama a une attitude calme, digne d'un spécialiste. Cet éminent chercheur japonais dans le domaine de la psychiatrie a publié plusieurs ouvrages remarqués. Contrairement à nombre de ses compatriotes, il n'emploie pas d'expressions ambiguës et établit une nette distinction entre les faits et les hypothèses. Avant la guerre, il a séjourné à Stanford dans le cadre d'échanges universitaires et parle anglais assez couramment. Il est très aimé et estimé de son entourage. À la mi-novembre 1944, nous avons mené une série d'entretiens avec ses enfants sur ordre de l'armée. Il est exceptionnel que de telles demandes émanent des autorités militaires. Comme vous le savez, l'armée japonaise possédait sa propre unité médicale qui observait scrupuleusement le secret militaire. Hormis de rares cas où le recours à des connaissances extérieures ou des techniques spécifiques était indispensable, l'armée ne s'adressait jamais à des médecins ni à des chercheurs privés. Nous en avons donc naturellement déduit qu'il s'agissait là d'un cas exceptionnel. Franchement, cela ne me disait rien de travailler pour l'armée. Le plus souvent, les militaires recherchent non pas des vérités scientifiques, mais des conclusions conformes à leur système idéologique, ou simplement des résultats efficaces. Ce ne sont pas des gens avec qui on peut discuter. Mais nous étions en guerre et il était impensable de s'opposer aux ordres de l'armée. Nous ne pouvions qu'obtempérer. Même pendant les raids aériens américains, nous avions réussi à poursuivre nos recherches dans un cadre restreint. La plupart des étudiants et des chercheurs étaient mobilisés et l'université était vide. Il n'y avait pas d'exemption pour les psychiatres. Dès que nous avons reçu l'ordre de l'armée, nous avons interrompu les études en cours et avons sauté dans le premier train pour la ville de la préfecture de Yamanashi. Nous étions trois. Moi, un collègue professeur de psychiatrie et un neurochirurgien. Une fois sur place, on nous a prévenu que l'enquête était classée secret défense et qu'il nous était par conséquent interdit de divulguer quoi que ce soit à l'extérieur. On nous a ensuite expliqué ce qui s'était passé au début du mois. 16 enfants avaient perdu connaissance dans la montagne. 15 avaient repris conscience spontanément, mais avaient perdu tout souvenir de leur évanouissement. Seul un garçon, qui souffrait d'amnésie totale, était toujours hospitalisé à l'hôpital de l'armée de terre à Tokyo. Le médecin militaire chargé de ces enfants nous a exposé ses conclusions en tant que généraliste. C'était un major du nom de Toyama. Beaucoup de médecins militaires ont un tempérament de bureaucrate et sont animés par leurs intérêts personnels plutôt que par leurs devoirs de médecin. Mais par chance, le major Toyama semblait être un homme honnête et compétent. Il ne manifestait ni arrogance ni rejet à notre égard. Il nous a décrit objectivement et concrètement les faits, sans rien omettre, et nous a transmis la totalité des dossiers médicaux. Cet homme, qui voulait avant tout découvrir la vérité, nous a fait une excellente impression. Un fait essentiel ressortait de son rapport. Du point de vue médical, les enfants n'avaient gardé aucune séquelle de l'incident. Tout au long des examens, on n'avait décelé aucune anomalie physique, interne ou externe. Les enfants menaient une vie aussi normale et saine qu'avant l'incident. Des analyses approfondies avaient révélé la présence de parasites dans les intestins de quelques enfants, mais cela ne valait pas la peine d'être souligné. On notait une absence totale de symptômes tels que migraines, nausées, douleurs, manque d'appétit, insomnie, fatigue anormale, diarrhée ou cauchemar. Simplement, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant ces 2 heures. C'était une caractéristique commune à tous. Ils ne se rappelaient même pas le moment où ils étaient tombés. Cet épisode avait été effacé de leur mémoire. Cela ressemblait davantage à un manque qu'à une perte de mémoire. Ce ne sont pas des termes professionnels, mais je les emploie à dessein pour le moment pour me faire bien comprendre. Il existe une grande différence entre perte et manque. Imaginez par exemple un train de marchandises roulant sur une voie. Le chargement de l'un des wagons disparaît. On parlera de perte. Mais si c'est le wagon entier qui s'évanouit dans la nature, on dira plutôt qu'il manque. Nous avons discuté de la possibilité que ces enfants aient inhalé du gaz toxique. Le major Toyama nous a expliqué que cette hypothèse avait été naturellement prise en compte par l'armée, mais qu'au stade actuel, en considérant les choses avec objectivité, elle avait une très faible probabilité. Par ailleurs, cette question relevant du secret militaire, il nous a recommandé de ne pas l'évoquer à l'extérieur. Je résumerai ainsi ce que le major nous a confié à ce sujet. L'armée de terre effectue en effet des recherches secrètes en vue du développement d'armes chimiques telles que celles libérant des gaz toxiques ou bactériologiques. Mais ces recherches se déroulent exclusivement au sein d'unités spéciales basées sur le continent chinois. Il serait trop dangereux de mener ces expériences sur un territoire aussi exigu et aussi peuplé que le Japon. Je ne peux pas vous donner de détails précis, ni vous dire si de telles armes sont stockées ou non à l'intérieur du pays, mais je peux du moins vous assurer qu'au stade actuel, il n'y en a aucune dans la préfecture de Yamanashi. Le médecin militaire vous a donc affirmé qu'aucune arme chimique telle que du gaz toxique n'était stockée dans la préfecture de Yamanashi. Oui, il a été très clair là-dessus. Nous n'avions pas d'autre choix que de le croire. Mais nous avons eu l'impression que l'on pouvait se fier à ce qu'il disait. Nous sommes également parvenus à la conclusion que l'hypothèse d'un gaz toxique lâché par un B-29 de l'armée américaine était elle aussi peu vraisemblable. Si les Américains avaient développé de telles armes et pris la décision de les utiliser, ils l'auraient fait sur des grandes villes, où l'impact aurait été important. Lâcher une ou deux bombes à haute altitude sur ce coin perdu de montagne ne leur aurait pas permis d'en évaluer les effets. Même en supposant que le gaz se soit affaibli en se diffusant. Une arme qui a pour seul résultat de plonger ses victimes dans un coma de 2 heures, sans laisser de traces, n'a aucun intérêt d'un point de vue militaire. En outre, à notre connaissance, il était impossible qu'un nuage toxique naturel ou artificiel ne laisse pas la moindre séquelle chez les victimes. Dans le cas d'enfants, plus sensibles et plus faiblement immunisés que des adultes, on aurait normalement dû retrouver au moins quelques traces d'empoisonnement dans les yeux et les muqueuses. L'hypothèse d'une intoxication alimentaire avait été exclue pour les mêmes raisons. Restait l'éventualité d'un problème psychologique ou neurologique. Dans un tel cas, naturellement, les moyens mis en œuvre par la médecine classique ne permettraient pas d'isoler les causes de l'incident, car les séquelles pouvaient être invisibles et non quantifiable. Nous avons alors compris pourquoi l'armée avait besoin de notre aide. Nous avons eu des entretiens individuels avec chacun des enfants, ainsi qu'avec l'institutrice qui les accompagnait et le médecin scolaire. Le major Toyama s'est joint à nous. Mais nous n'avons pu tirer aucun nouvel élément de ces entretiens. Nos observations ont simplement corroboré les dires du médecin militaire. Les enfants ne se souvenaient de rien. Ils avaient vu un objet qui ressemblait à un avion voler très haut dans le ciel, puis ils avaient gravi la colline du bol de riz et avaient commencé à ramasser des champignons dans la forêt. Là, le temps s'était arrêté. et tout ce dont il se rappelait, c'est de s'être retrouvé allongé par terre, entouré par les enseignants et les policiers affolés. Physiquement, il ne se sentait pas spécialement mal. Il n'éprouvait ni douleur, ni malaise. Il n'avait pas de contusion. Il se sentait juste un peu vaseux, comme le matin au réveil. C'était tout. Les témoignages de tous les écoliers concordaient parfaitement. Ces entretiens nous ont amenés à réfléchir à l'hypothèse d'une hypnose collective. Les symptômes observés par leur institutrice et le médecin scolaire chez les enfants au cours de leur évanouissement s'expliqueraient alors tout à fait. Battements réguliers des paupières, légère baisse de la température, respiration et pouls ralenti, absence de souvenirs au réveil. Cela devenait cohérent. Si l'institutrice était la seule à ne pas s'être évanouie, c'était sans doute parce que l'élément déclencheur de l'hypnose collective ne fonctionnait pas avec les adultes, pour une raison qui nous échappait. Nous n'avons pas pu identifier cet élément déclencheur. L'hypnose collective suppose la simultanéité de deux conditions. L'homogénéité du groupe, qui doit être placé dans des circonstances incitant ses membres à se resserrer, et la présence d'un élément déclencheur, qui doit être expérimenté par tous les membres du groupe à peu près en même temps. Dans le cas qui nous occupe, il peut s'agir de l'éclat renvoyé par l'objet volant qu'ils ont aperçu avant l'ascension de la colline. Tous les enfants l'ont vu en même temps, et l'évanouissement s'est produit quelques dizaines de minutes plus tard. Naturellement, il ne s'agit là que d'une hypothèse, et peut-être un autre incident, non reconnu comme tel, a-t-il pu jouer le rôle de déclencheur. J'ai fait part au docteur Toyama de cette éventualité d'une hypnose collective en insistant sur sa valeur de simple hypothèse. Mes deux collègues étaient à peu près d'accord avec moi. Ce cas était indirectement lié au sujet de nos recherches. « Ce serait assez cohérent », a dit le major Toyama après un court moment de réflexion. « Ce n'est plus de mon ressort, mais cette hypothèse me paraît grandement plausible. Une chose m'échappe cependant. Quel élément a mis fin à l'hypnose? Il doit exister une sorte de déclencheur à l'envers, non ?»« Je ne sais pas, ai-je reconnu. » Sur ce point, je ne pouvais qu'ajouter une hypothèse supplémentaire. L'hypnose a pu être programmé pour prendre fin automatiquement au bout de quelques heures. Les mécanismes de défense du corps humain sont très puissants. Lorsqu'un système externe prend momentanément le contrôle, le corps déclenche une alarme afin d'expulser l'élément étranger, c'est-à-dire l'hypnose, qui bloque le métabolisme originel. Comme je n'ai malheureusement pas les dossiers sous les yeux, je suis incapable de vous fournir des chiffres précis, mais des incidents similaires ont également été rapportés à l'étranger, ai-je expliqué au major Toyama. Tous ont été classés comme incidents mystérieux échappant à la logique. Il s'agissait chaque fois d'un groupe d'enfants qui perdaient conscience en même temps et se réveillaient au bout de quelques heures sans se souvenir de ce qui s'était passé. Je voulais dire par là que cet incident, pour inhabituel qu'il fût, n'était pas sans précédent. En 1930, dans le comté du Devonshire en Angleterre, à la lisière d'un petit village, une trentaine de collégiens qui marchaient en rang se sont effondrés les uns après les autres. Ils ont tous repris connaissance au bout de quelques heures et sont retournés à l'école à pied comme si de rien n'était. Un médecin les a examinés, mais ils ne présentaient aucune anomalie d'un point de vue médical. Aucun d'eux ne se souvenait de ce qui s'était passé. Un incident de ce type a également été rapporté en Australie, à la fin du siècle dernier. Dans la banlieue d'Adélaïde, une quinzaine d'adolescentes de moins de 15 ans se sont évanouies au cours d'une excursion et sont revenues à elles peu après. Elles ne présentaient ni traumatisme ni séquelles. On a conclu à une insolation. Mais le fait qu'elles se soient toutes évanouies et réveillées en même temps reste un mystère. D'ailleurs, aucun symptôme d'insolation n'a été observé. Il ne faisait pas particulièrement chaud ce jour-là. Sans doute a-t-on attribué l'incident à une insolation, faute d'explication satisfaisante. Ces incidents ont en commun d'être intervenus à une certaine distance de l'école. est de concerner un groupe d'enfants ou d'adolescents qui perdent conscience en même temps, puis se réveillent en même temps, sans séquelles. On retrouve ces caractéristiques dans tous les cas. En ce qui concerne les adultes présents, parfois, ils se sont également évanouis. Parfois non. Il existe d'autres cas similaires, mais pour ces deux-là, nous disposons de documents suffisamment clairs, permettant une étude scientifique. Toutefois, l'incident de Yamanashi présentait un fait exceptionnel. Un des écoliers était resté plongé dans cet état d'hypnose ou cette perte de connaissance. Et cet enfant pouvait être la clé de l'affaire. Une fois notre enquête sur place terminée, nous sommes donc retournés à Tokyo et nous sommes rendus à l'hôpital militaire où le garçon était en observation. Pensez-vous que l'armée de terre s'intéressait à cette affaire uniquement parce qu'elle soupçonnait l'usage d'un gaz toxique? C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais le major Toyama serait certainement en mesure de vous renseigner plus précisément que moi sur le sujet. C'est à lui que vous devriez vous adresser. Le major Toyama a trouvé la mort dans l'exercice de son devoir en mars 1945, lors d'un bombardement aérien sur Tokyo. Vraiment, j'en suis navré. Beaucoup d'hommes de valeur ont perdu la vie dans cette guerre. En définitive, l'armée est parvenue à la conclusion que l'incident n'avait pas été provoqué par des armes chimiques. La cause exacte est restée indéterminée, mais selon toute vraisemblance, elle ne serait pas en rapport avec le conflit. C'est bien cela. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. À ce stade, l'armée avait terminé son enquête. Si l'hôpital militaire gardait cet écolier inconscient en observation, c'était uniquement parce que le major Toyama s'intéressait personnellement à l'affaire et qu'il avait un certain pouvoir de décision dans son service. Nous nous sommes donc rendus à l'hôpital presque tous les jours et nous y sommes relayés la nuit afin de poursuivre nos investigations sous des angles divers. Les fonctions physiques du jeune garçon n'étaient absolument pas atteintes. Il était alimenté par perfusion, urinait régulièrement. Le soir, une fois qu'on avait éteint la lumière de la chambre, il fermait les yeux et s'endormait. Et le lendemain matin, il soulevait de nouveau les paupières. Il était inconscient, certes, mais à part cela, son métabolisme fonctionnait à merveille. Il ne rêvait pas. Quand quelqu'un rêve, les mouvements de ses globes oculaires ou l'expression de son visage le signalent toujours. La conscience réagit aux expériences oniriques. Le rythme cardiaque s'accélère ou diminue. Mais on n'observait aucun de ces signes chez le petit Nakata. Son pouls et sa respiration étaient ralentis. Sa température un peu plus basse que d'ordinaire, mais étonnamment stable. Cela peut sembler bizarre, pourtant on avait l'impression que le véritable Nakata était parti en voyage, ne laissant que son corps, telle une enveloppe provisoirement vide, comme s'il avait réduit ses activités vitales au minimum, pendant que sa personne elle-même était partie ailleurs pour vaquer à d'autres occupations. Et littéralement, comme si son esprit avait quitté son corps. Connaissez-vous cette expression? On l'emploie souvent dans les contes japonais. L'âme se sépare momentanément du corps, parcourt 1000 lieues, ce qui signifie qu'elle se rend dans un endroit lointain, où elle accomplit une importante mission, avant de réintégrer le corps. Dans le célèbre dit du Genji, on trouve des esprits vivants, ce qui peut être un phénomène assez proche. C'est-à-dire que l'âme d'une personne vivante, à condition que sa volonté soit suffisamment forte, peut quitter son corps comme celle d'un défunt. Cette conception de l'âme est enracinée au Japon depuis la nuit des temps. Bien entendu, rien de tout cela ne peut être prouvé scientifiquement. Je suis même un peu gêné d'évoquer ce genre de phénomène, ne serait-ce que sous forme d'hypothèse. Le problème concret auquel nous devions faire face était, bien sûr, comment sortir ce garçon du coma? Comment le ranimer? Nous avons consacré toute notre énergie à rechercher en tâtonnant une sorte de déclencheur contraire, capable de mettre fin à cette hypnose. Nous avons tenté tout ce qui nous venait à l'esprit. Nous avons fait venir les parents de l'enfant. Leur avons demandé de l'appeler à haute voix pendant plusieurs jours. En vain. Nous avons testé à son chevet tous les trucs utilisés par les hypnotiseurs. Nous lui avons fait diverses suggestions, avons tapé dans nos mains de différentes façons, lui avons fait écouter des musiques familières et lui avons lu ses manuels scolaires tout haut. Nous lui avons fait humer ses plats favoris. Amener son chat à l'hôpital, il l'adorait ce chat. Nous avons tout tenté pour le faire revenir de ce côté-ci, dans le monde conscient. Sans le moindre résultat. Soudain, au bout de 2 semaines, au moment où, ayant épuisé tous les moyens en notre possession, nous commencions à perdre confiance et à nous sentir épuisés, le garçon s'est réveillé d'un coup, sans crier gare. Pas à cause de quelque chose que nous aurions fait et qui se serait révélé efficace, non. L'enfant parut se réveiller simplement parce que l'heure était venue. Ce jour-là, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel? Rien qui vaille la peine d'être souligné. La journée s'est déroulée normalement. Vers 10 heures du matin, une infirmière lui a fait un prélèvement sanguin. Il a suffoqué, et un peu de sang recueilli dans la pipette s'est éparpillé sur ses draps, qui ont été changés immédiatement. C'est le seul incident qui s'est produit ce jour-là. Le garçon s'est réveillé environ 30 minutes plus tard. Il s'est redressé brusquement sur le lit, s'est étiré, a regardé autour de lui. Sa conscience était revenue. Médicalement, il était en parfait état de santé. Très vite, cependant, on a pu constater qu'il était devenu totalement amnésique. Il ne se rappelait même pas son nom, ni l'endroit où il vivait, ni l'école qu'il fréquentait, rien, pas même les visages de ses parents. Il était incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Il ne savait plus lire. Il n'avait même pas idée de ce que pouvait être le Japon ou la Terre. Il était revenu dans le monde ordinaire, la tête complètement vide, pareil à une feuille blanche.